Entourage, présenté par Kevin Elarbi. Une bulle d'intimité sur Beta Série, la radio.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un numéro un petit peu spécial d'entourage, un numéro fait en confinement. Comme vous tous, la dernière fois qu'on s'est retrouvé, c'était avec Randy Harrison de Chorus Folk. On était déjà en duplex de New York. Alors là, on est aussi en duplex les uns et les autres, même la technique. Hein, je ne vais pas vous mentir de nos appartements respectifs. Mais enfin bon, la bonne nouvelle dans tout ça, si on peut voir une bonne nouvelle, c'est que pendant ce confinement, vous êtes extrêmement nombreux à regarder des séries, à regarder aussi des séries qui normalement ne seraient pas dans les séries que vous regardez habituellement facilement le soir. Donc c'est une ouverture un peu sur le monde de ce confinement. Il était évident qu'on allait continuer ces podcasts qui, on l'espère, sont une ouverture sur des séries que vous ne connaissez pas et des personnalités qui font les séries que vous ne connaissez pas. Et alors aujourd'hui, un coup de cœur personnel puisque c'est une actualité multiple. On va recevoir un comédien et un auteur dans cette discussion d'entourage aujourd'hui avec moi. Alors en deuxième partie d'émission, on va aborder évidemment le phénomène série de ce moment de confinement qui est validé, que vous avez tous plébiscité. Cité plus de 15 millions de vues sur Canal+. Je vous ramène d'ailleurs à la discussion que nous avions avec Franck Gastambide il y a quelques semaines autour de Validé. Franck, on devrait recevoir dans l'émission quand Cannes Série sera reportée. Nous avons un des auteurs de Validé aujourd'hui avec nous, mais qui est aussi leading role principal sur une toute nouvelle série qui va arriver dans quelques jours sur France Télévisions, une espèce d'ovni que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Parlement. Et c'est Xavier Lacaille que je remercie infiniment d'être avec nous dans cet entourage en confinement. Bonjour Xavier.
Bonjour, merci pour cette introduction.
Comment ça va ?
Ben ça va, ouais, pas mal. Je suis dans mon lit, dans ma chambre, là, donc ça va, c'est bizarre, mais ça va.
C'est quand même assez improbable de faire un format comme ça. Du coup, peut-être juste avant qu'on commence à parler de Parlement, comment est-ce que toi, tu vis ce confinement ? On peut pas faire comme si de rien n'était, donc on va ouvrir là-dessus. Et puis, comment est-ce que tu le vis ? Qu'est-ce que ça réveille en toi ?
Ça réveille, alors comme je suis aussi à moitié scénariste, ça change pas, la moitié de ma vie n'est pas changée, parce que je suis devant une table, devant un écran et j'écris des histoires, donc ça change pas. Non, après c'est un peu en dents de scie, quoi. T'as des moments de où tu prends du recul, tu fais rien, et puis des moments où tu regardes Instagram pendant 8 heures et tu te dis que tu perds ton temps, mais ça va relativement bien.
Exactement. En tout cas, on va pouvoir profiter de ce confinement pour regarder, et je trouve ça plutôt pas mal du coup que ça sorte à ce moment-là, puisque je pense qu'il y a énormément de gens en plus que la cible, même si je sais pas vraiment s'il y a une cible, mais qui va regarder ce petit ovni qui sort dans quelques jours sur France Télévisions, sur le site internet. Alors tout va sortir d'un coup. C'est une série qui s'appelle Parlement, une mini-série. Alors le pilote est d'à peu près 30 minutes et puis ensuite son épisode de 22 à 24 minutes. On suit le parcours de Samy qui vient de faire son entrée en tant qu'assistant parlementaire auprès d'un député loin d'être cliché. C'est une série qui est très très bien écrite. Une série, on est dedans, on s'attache au personnage dès le premier épisode. Une série avec donc un grand soin d'écriture, tout est très rythmé. Une série où on pense à VIP, la série de HBO, on pense aussi à 10%. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu es arrivé sur cette série ? Une série, encore une fois, très 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 bien écrite.
Oui, complètement. C'est une série qui est brillante, qui a été créée par Noé Debré. Et il y a quatre auteurs, évidemment. Il y a Darren Johnson, Maxime Caligaro. Enfin bref, je vais pas faire tout le CV. Mais en gros, il y a un an, ils ont lancé le casting. C'était plus d'un an. Ouais, c'était en janvier 2018. Et de manière très classique, j'ai passé le casting. Donc il y a eu plusieurs tours, vu que c'est un rôle principal, tu as 3-4 tours et jusqu'au moment où ils m'ont choisi. Voilà, donc c'était assez classique comme parcours de casting, quoi.
Parce que comme tu es auteur aussi, peut-être que tu connaissais les scénaristes avant, c'est pour ça que je voulais savoir un peu comment tu es arrivé sur le projet.
Je les connaissais pas du tout, j'avais entendu parler du projet parce que j'écrivais déjà donc la série Validée pour Canal+, et à l'origine Parlement était développé chez Canal+, et j'en avais entendu parler il y a vraiment longtemps, ça devait être en 2016, un truc comme ça, je savais que ça avait changé de diffuseur, c'était un peu flou encore pour moi, mais en tant qu'auteur, voilà.
C'est une série qui tombe un petit peu à pic en ce moment, hein, puisque c'est une série où on aborde un petit peu tout ce qui fait l'Europe. Donc, ça tombe vraiment à pic, surtout en ce moment, hein, que ce soit au niveau du Brexit, au niveau de l'entraide internationale. Ce que je propose, c'est d'écouter tout de suite un extrait, justement, de Parlement, que les gens se fassent une idée, justement, de ce ton très à part, et puis on en reparle juste après.
C'est un grand bâtiment, en forme de caprice des dieux, vu du dessus. Ah oui, non, mais je viens d'un même le sol, là.
Le boulot de ton député, en fait, ton boulot, c'est de proposer des changements à cette loi.
Hello, Michel Spetlin, we'll be taking care of that report, thank you. Qu'est-ce que vous nous avez fait, mon pauvre Sam?
On peut pas aller se renseigner pour voir de quoi il s'agit.
Non, enfin, on peut pas faire.
Bonjour Maurice, je m'appelle...
C'est à votre conseiller politique de vous orienter.
Oui, d'accord, mais alors Maurice me déteste.
On n'a pas.
Excuse-moi.
Les conseillers politiques sont soumis à l'autorité de leurs députés.
Donc de Michel? Vous l'avez déjà rencontré?
Allô?
Non, Michel.
Ça va, c'est Thorsten.
Du ninja?
Si la production halieutique dans sa conscription...
C'est un mode adulte.
Oui, oui.
C'est possible, quoi.
Ben, c'est possible.
Et là, ça devient assez simple, puisque le compromis F, qui modifie le paragraphe 13, est composé de l'amendement 45. Naturellement, l'amendement 13 ne portait pas initialement sur le paragraphe 13.
Ouais, ouais.
Voilà, parlement-nous dans quelques jours sur France Télé. Alors, au début, qu'est-ce que, quand tu as lu le scénar, je sais pas, t'as eu le pilote d'abord ou t'en as eu plusieurs épisodes?
Trois premiers, il y avait une description du personnage et les trois premiers épisodes qui n'étaient pas encore en version définitive. Moi, j'ai trouvé ça brillant immédiatement. C'est à la fois ludique, pédagogique, drôle, touchant. C'est assez. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est un ovni, quoi. Ça coche un peu toutes les cases. Et j'ai été surexcité immédiatement, à la fois stressé parce que je me suis dit, il faut à tout prix que j'ai le rôle. C'est vraiment un truc que je voulais faire à tout prix. Et je passe très peu de casting, donc c'est pas un exercice que j'aime. Donc j'étais à la fois stressé et excité.
Parce que c'est quoi que t'as passé en casting? Quel était l'exercice du premier tour?
Alors il y avait 4 scènes, je crois.
Ce qui est beaucoup pour un premier tour de casting.
Ouais, c'était pas mal. Il me semble que c'était ça, ou alors c'était le deuxième tour où il y avait 4 scènes, mais t'avais dans ces eaux-là, ouais, entre 2 et 4 scènes, et il y a eu un deuxième tour avec cette fois-ci des acteurs et les réals qui ont été choisis en cours de route, Jérémy Saint et Émilie Noblet, qui sont incroyables, qui ont fait un travail hallucinant. Un troisième tour où pareil, avec donc ce qu'on appelle des callbacks, tu vois, avec des acteurs qui eux aussi sont en train de passer des callbacks, donc tu testes plusieurs scènes avec plusieurs acteurs différents, et à chaque fois il y avait des nouvelles scènes et un peu d'impro et surtout beaucoup d'impro.
D'accord. Et qu'est-ce qui oui, de l'impro, parce qu'on sent quand même le timing de la comédie est très rythmé, et donc on sent un jeu entre les comédiens. Alors peut-être que je me trompe, mais on sent que vous avez eu un énorme kiff à tous tourner ensemble, ça. C'est ce qu'on sent en tout cas.
Clair. Ah ouais, complètement un kiff hallucinant. Ce qui est super cool avec Émilie Noblet et Jérémy Saint, qui sont les réals, c'est qu'ils te laissent une place énorme, et donc tu peux proposer plein de choses, et ensuite ils resserrent, ils rythment le truc, mais c'est clair que t'as beaucoup d'impro et beaucoup de kiff, ouais, carrément.
Et qu'est-ce qui t'a plu tout de suite dans le scénario? Est-ce que c'est ce personnage de Samy qui découvre l'envers du décor de quelque chose qu'il a rêvé depuis longtemps? Est-ce que c'est justement tous ces personnages hauts en couleur? Est-ce que c'est la comédie aussi, c'est cet humour très cinglant, grinçant, avec beaucoup de jeux de mots? Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite dans le scénar?
En fait, c'est un peu tout ça. L'idée, c'est assez rare d'avoir une comédie de 26 minutes en France, et d'autant plus quand elle est vraiment très bien écrite et très drôle. Donc tu as vraiment cet aspect aussi pédagogique que j'ai kiffé. Moi, j'ai fait des études de droit et j'adorais le droit européen. Et du coup, je me suis dit, c'est chambé, c'est vraiment un moyen d'expliquer aux gens de manière à la fois précise, parce que tout est vraisemblable et tout est réel. Deux des auteurs ont travaillé là-bas, ils sont en interne, comme on dit. Et donc, tu as quelque chose de très précis, de très vraisemblable et en même temps de très drôle qui te permet de tout accepter.
Et quand tu dis ils sont en interne, c'est-à-dire qu'ils ont
Alors, je sais pas si c'est secret, mais ouais, ils ont un passé complètement et peut-être même un présent au Parlement européen, ouais, carrément. Donc ça a été écrit. Je sais que la série elle-même a été à des moments réfléchie dans les locaux du Parlement, quoi. Il y a eu beaucoup de recherche interne, et même les auteurs eux-mêmes écrivaient parfois là-bas, quoi. Donc il y avait vraiment t'as un truc très organique, quoi.
Oui, c'est pour ça que je comparais ça à 10%, puisque c'est un peu à la politique européenne, ce que 10% est aux agents d'artistes français. Et oui, donc, toi, tu as fait... Donc, toi, tu parce que c'est quand même... Alors, c'est une série qui est accessible pour tout le monde. Si on ne comprend rien à la politique européenne, ça reste très accessible. Mais néanmoins, c'est un petit cadeau en plus pour ceux qui sont aussi passionnés, justement, de politique internationale, puisqu'il y a des références, etc. Toi, est-ce que c'est quelque chose... T'as fait des recherches avant? Qu'est-ce qu'un assistant parlementaire? Comment ça se passe, etc. Ou est-ce que tu as découvert ça en même temps que Samy en tournant?
En fait, un peu des deux. Moi, j'avais fait du droit européen déjà quand j'étais à la fac de droit, donc j'avais des notions et j'aimais ça. Donc, j'ai tout de suite ça m'a tout de suite rapproché du personnage. En revanche, j'avais un peu tout oublié, donc je me suis remis dans la position de Samy. Non, mais il y a à la fois une éducation politique et aussi une éducation sentimentale dans cette série. Un apprentissage des choses qui est parfois cool, parfois et souvent cruel. Et il n'y a pas que cette dimension politique, il y a aussi ce chemin de croix émotionnel, je ne spoile pas, mais dans la série, voilà, il faut qu'il se fasse des amis pour en arriver là où il va à la fin. Et c'est une série sur la jeunesse aussi, quoi.
Et parce que ce personnage-là, il est dès le pilote, hein, d'ailleurs, hein, tu le tiens complètement. C'était écrit comme ça ou est-ce qu'ensuite tu l'as avec les auteurs réarrangé à ta sauce? Parce qu'on a vraiment l'impression, après évidemment tu vas me dire c'est mon travail etc, mais là pour le coup il y a quand même un naturel assez dingue, ce qui fait que certaines scènes sont tellement bien écrites qu'on se demande si c'est pas improvisé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très naturel, alors que parfois des dialogues quand même de ubuesques, mais pourtant tout est naturel. Alors est-ce que vous avez retravaillé sur le plateau? Est-ce qu'il y a eu des impros? Comment ça s'est fait?
Franchement, c'était super organique. Les réals sont très ouverts à l'impro, donc ce qui était génial, c'est assez rapidement en casting, je me suis permis d'improviser un peu. Mais honnêtement, le texte est tellement bien écrit, mais vraiment, hein, c'est con, mais c'est tellement bien écrit que t'as l'impression que c'est de l'impro parce qu'en fait, c'est super bien écrit. Après, je pense que t'as un mix, t'as des séquences où on a pris des bases qui étaient déjà posées et qu'on a soit poussé, soit un peu transformé, mais ouais, c'est ça qui est génial avec cette série, c'est que elle est à la fois très écrite, parce qu'il faut, vu que c'est complexe, et en même temps, t'as un grand naturel, vu que et ça c'est un travail que les réals ont fait sur le casting, c'est que tous les personnages sont extrêmement bien trouvés, extrêmement intelligents.
Ah oui.
Moi, les acteurs, genre, les gens n'ont pas encore vu, enfin je sais pas quand sortira le podcast, mais celui qui joue, le député Michel, je dirais pas que Philippe est aussi perdu que lui, mais il a cette drôlerie naturelle, quoi, dans son regard. Parfois, tu as l'impression qu'il est vraiment perdu. Alors, je sais pas s'il en joue ou quoi, mais puis pareil pour le personnage de Aemon, qui est joué par William Nagyllam, il est très mystérieux. C'est un acteur qui est lui-même mystérieux. Que la première fois où je l'ai vu, c'était dans le train pour aller à Bruxelles, et il est fascinant, mystérieux. Pareil pour le personnage de Ingeborg, qui est joué par Christian Bale. Elle a quelque chose de
incroyable,
incroyable.
Très Basic Instinct, toi. Oui, je suis là. Et tous les personnages ont vraiment un monde à part. C'est très rare dans une série, d'autant plus que c'est une série courte, hein, dans le sens où c'est du 24 minutes, etc. Et c'est pour ça que, en ce sens, ça me fait vachement penser à VIP, parce que ça reste réfléchi, ça reste sur des choses très réelles, ça reste sur des choses où c'est tellement tiré par les cheveux qu'on dit ça peut pas exister, et pourtant si. Du coup, est-ce que toi, quand tu tournais, ou peut-être juste avant, en mood board, est-ce qu'on t'a dit, tiens, peut-être pour te mettre dedans, on regarde un peu de The Office, on regarde un peu de VIP, ou est-ce que vous êtes rentré dans le tournage libre de toute imagination?
Je l'ai fait naturellement, en fait, de base, en lisant la série, et je crois même qu'il y avait une note d'intention qui parlait de certaines références. Et effectivement, VIP, The Office, le film In the Loop, qui est du même créateur, Armando Iannucci, étaient des références immédiates, et je me suis remis très tôt, dès les castings, dans cette dynamique-là, qui est à la fois des séries politiques avec des enjeux réels, et en même temps des personnages assez loufoques et un peu bizarres à la The Office. Donc très vite, moi, je l'ai naturellement fait. Et ensuite, sur le plateau, une fois que le truc était lancé, quoi, les personnages étaient tenus, j'ai l'impression. J'ajoute juste qu'on tournait dans les vrais locaux du Parlement, ce qui fait
c'est ça.
Déjà, tu croises des députés européens, toute la journée, tu as des gars en costard qui, eux, travaillent réellement. Enfin, je dis, on tournait, mais je...
Alors, comment ça se passait de manière logistique, ça? Parce que du coup, le Parlement était en marche. Le Parlement n'arrête jamais d'être en marche, de toute façon. Mais vous tourniez... Alors, comment ça se passait? Vous aviez des décors communs
C'était une organisation de fou, parce que on tournait les week-ends, donc les samedis dimanches on tournait dans les lieux communs, donc dans les hémicycles, à la cafette, dans les lieux où eux travaillent et se déplacent la semaine, et dans la semaine on tournait à un étage de bureau qui nous était réservé, ce qui fait que tous les intérieurs un peu bureaux, c'était du mardi au vendredi, et les samedis dimanches on tournait on en profitait, on fonçait dans les hémicycles qui étaient vides.
Ça doit être un bonus en tant que comédien de se laisser imprégner par le vrai décor et que ce soit pas le studio de Brie-sur-Marne. C'est quand même quelque chose de...
Ah bah ouais, très, ouais, carrément. Non, c'est génial. Tu peux pas ne pas être dans le personnage. C'est tellement organique. Puis moi, si tu fais une pause, tu croises littéralement des députés qui ont le même costume que toi. Et moi, je m'aventurais un peu à la cantine ou à la cafette et parfois je parlais avec deux, trois attachés ou des députés ou des mecs qui bossaient là, tu vois, et tu sens tout de suite un truc, quoi. Tu peux pas ne pas l'avoir.
Et les scènes, puisqu'il y a énormément, donc, je le disais, c'est très rythmé. C'est votre ville au Parlement un petit peu parfois, mais justement c'est ça qui est bon comme on dit. Comment ça se passait la mise en place? Qu'est-ce qu'on appelle mise en place dans le métier de comédien? C'est justement ce temps qu'on prend avant de tourner pour répéter, etc. Est-ce que ça, il y a eu des lectures en amont, ce qui faisait que sur le temps, je vous ai calibré, ou est-ce que vous y avez la mise en place avec les comédiens sur le décor, à savoir que du coup pour quelque chose d'aussi rythmé que ça dans la comédie, je suppose qu'il y a dû avoir des répétitions quand même.
Alors assez peu. En fait, on a fait des lectures en amont, mais il y en a eu très peu. Il y a certains acteurs qui n'ont pas pu venir en lecture parce qu'ils habitaient dans des pays étrangers. T'en as qui étaient aux États-Unis, d'autres en Australie, aux États-Unis. Enfin, c'est un casting très international. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de lectures. Franchement, ça a été assez peu. Et c'est pour ça que le casting a été décisif. Et les réals ont choisi des acteurs qui vraiment pouvaient incarner au mieux les personnages. Donc les premières répètes, c'était vraiment en casting, quoi. Et ensuite, sur le plateau, on faisait une mise en place le matin, dès qu'on arrivait assez tôt. On proposait naturellement ce qu'on avait en tête et ce qu'on avait déjà discuté en amont avec les réals. Et à partir de ça, on avisait en fonction du décor, de ce qu'on avait, du nombre de figurants, etc., quoi.
D'accord. Et combien de temps de tournage, du coup, pour cette série?
On a tourné 38 jours.
D'accord. Ah oui, donc tout de même, c'est un... Ouais, oui, pour surtout, oui.
Pour 10 fois 26, donc le jargon, c'est on parle en minutes utiles. Donc là, je dirais que tu as eu des journées à 10 minutes utiles parfois, quoi. Pas tout le temps, on avait parfois des trucs à 5-6, mais ouais, c'était un rythme assez, assez costaud quand même.
Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est que ça se passe évidemment au Parlement, mais ils arrivent à trouver le moyen, enfin le... qui est mis le décor dans ce Parlement. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que c'est un stade, le truc en coulisses. C'est incroyable la quantité de décors qu'il peut y avoir. Et d'ailleurs, je salue aussi le travail des accessoiristes et des décors qui est vraiment dingue dans cette série,
clair,
je trouve.
T'as un travail hallucinant dessus et c'est aussi le talent des réals dans leur découpage. C'est qu'ils sont parvenus à certains moments, quand vous verrez la série, quand les gens verront la série, t'as des épisodes qui sont très resserrés, très en huis clos, et ils ont réussi à retransformer des espaces qui étaient, franchement, quand tu arrives le matin, tu dis parfois, ouais, c'est pas évident de faire de la fiction là-dedans, et en fait, ils ont fait le découpage technique, les choix des cadres et la manière dont ils filment les espaces est franchement brillante, quoi, et t'as effectivement l'impression d'avoir plein de lieux assez, assez beaux, et parfois, effectivement, on avait la chance d'avoir des lieux comme les hémicycles qui, naturellement, sont cinégéniques, quoi.
Ah, complètement. Et c'est pour ça que c'est important de dire aux gens qui écoutent de passer le premier épisode, comme tout épisode de série qui démarre, est un épisode de mise en place, bien que le pilote soit très très bon puisqu'on sent déjà l'écriture, mais ça part en crescendo ensuite dans le 2, puis alors dans le 3, on est en identification avec les personnages. Je pense qu'à peu près toutes les étudiants en Sciences Po vont être en identification avec toi.
C'est déjà, sûr.
Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je trouve ça très bien que France Télé sorte tout d'un coup, parce que en binge-watch, c'est... une série qui va prendre et qu'on ait 19 ans ou qu'on ait 40 ans ou qu'on ait 50 ans. Il n'y a pas, c'est pour ça que c'était peut-être cavalier quand je parlais de cible tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas vraiment de cible particulière pour cette série. C'est une série qui est même très grand public, hein.
Ouais, complètement. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que ça, je vois pas à qui ça pourrait ne pas parler, à part éventuellement des enfants qui vraiment pourraient rien comprendre. Mais
et encore, le comique de situation, parfois sur certaines scènes, peuvent.
Ouais, c'est vrai. On est rattrapé par quelque chose d'assez burlesque parfois qui t'attire. Et ouais, c'est vrai.
Et donc du coup, ça, c'est, vous avez tourné une saison. Est-ce que si, a priori, je pense que la presse va être assez unanime après avoir pour le public, mais le public a envie de voir des séries originales, surtout en cette période en ce moment. Donc a priori, c'est sous de bons auspices. Est-ce que tu aurais envie, toi, de continuer cette histoire de Samy, de continuer à voir où va aller ce personnage, comment est-ce qu'il va gravir les échelons entouré de ces requins drôles?
Ah ouais, avec plaisir. Moi, j'adore cette série, j'adore cette arène, j'adore ce personnage. Et il y a quelque chose d'incroyable avec les séries quand t'es acteur, c'est que ton personnage évolue vraiment au rythme du temps et t'as l'impression de le comprendre de plus en plus. Et c'est extraordinaire de faire évoluer un personnage, d'avoir une vraie trajectoire qui te bouleverse aussi, je trouve, en tant qu'acteur. Il n'y a pas que le personnage qui est touché, quoi. C'est vraiment en tant qu'humain, et surtout dans une arène aussi fascinante, tu as envie de le voir aller loin dans les arcanes, quoi. Tu as envie de voir ce que ça peut donner plus tard, quoi.
Et est-ce que depuis la fin du tournage, ou alors peut-être depuis que tu as vu ce que donnait la série, est-ce que tu regardes les interviews d'hommes politiques ou les reportages justement sur ce qui se passe en hémicycle d'une autre manière?
Ouais, un peu. Je dois avouer que déjà pendant le tournage, comme on était là-bas, on avait accès à pas mal d'infos et moi j'avoue que j'en regardais quand même pas mal. Ça m'a redonné goût en fait à la... non pas à la politique, mais à la politique européenne, à l'engagement européen, auquel j'ai toujours cru, mais il y a quelque chose qui revigore vachement l'envie d'engagement, quoi.
Oui, parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est que puisque ça reste quand même du divertissement, mais néanmoins sous le divertissement, il y a quand même cette idée que l'Europe est importante. Ça, je dis que c'est une série quand même, en ce moment, c'est très bien que ce soit en ce moment, parce que c'est quand même... la morale de cette série, c'est l'union des nations et que l'Europe, ouais, quand même, c'est une belle idée, comme dit Jean Gabin.
Ouais. Ouais, tout à fait. Évidemment, c'est de la comédie et du burlesque, donc parfois on rit de personnages et de députés, mais il y a pas que ça. Il y a beaucoup de députés talentueux et il y en a un dans la série qui est joué par un acteur qui s'appelle Kuhn, qui son personnage c'est Cornelius, qui lui incarne le côté plus sérieux, engagé et fort et beau de la politique européenne. Et je pense que c'est une série aussi sur l'engagement et sur l'apprentissage de ce qu'est la politique, quoi.
Exactement.
Et c'est bien de le voir.
Exactement, donc ça s'appelle Parlement, c'est en ligne dans quelques jours, ou depuis quelques jours, ça dépend quand vous écoutez ce podcast, parce qu'il sera mis en ligne autour du 9 avril, tout est en ligne sur France Télé. On espère du coup une saison 2. Moi je ne me fais pas trop de soucis sur le fait que les gens s'intéressent à cette série, puisque en ce moment je pense que les gens ont envie de ça, mais ce n'est pas ta seule actualité sérielle, si je puis dire. C'est pour ça que je voulais t'emmener sur un tout autre univers, puisque... tu es comédien, mais tu es aussi auteur. Alors, c'est très intéressant pour mon format, justement, parce que tu vas nous expliquer ce qui t'a amené, justement, vers l'écriture. En ce moment, ton travail d'écriture, il est vu par plus de 15 millions de personnes. Hein, c'est le phénomène série du moment. C'est ce que vous avez réussi tous à créer, hein, sur Validée. On en parlait avec Franck il y a quelques semaines pour le lancement de Cannes Série. Alors, comment est-ce que tu es arrivé, toi, sur l'écriture de cette autre série, un tout autre univers, qui cartonne en ce moment? Comment t'es arrivé sur cette aventure?
Alors, moi, j'ai fait la FEMIS, qui est une école de cinéma en écriture, donc à la sortie en section série. Donc à la sortie, j'ai écrit sur pas mal de séries qui existaient. Voilà, et j'ai intégré Canal+ en tant qu'auteur au ce qu'on appelle le bureau des auteurs. Donc on écrit pour plutôt du flux. Il y a parfois des sketchs et un peu de fiction, mais voilà, on écrit pour des émissions. C'est une sorte de SNL.
C'était quand ça? C'était il y a quelle année?
Ça devait être en 2016. Je suis rentré.
D'accord. Donc il y a 4 ans.
Ouais, il y a 4 ans, et j'y suis resté pendant 2 ans. Et j'ai rencontré des auteurs, notamment un auteur qui s'appelle Giulio Calegari, qui était le directeur d'écriture de cette cellule, qui connaissait un scénariste qui avait été contacté par une société de production qui s'appelle Mandarin, qui est la société avec laquelle Franck Gastambide fait tous ses films, parce que Franck voulait faire une série sur le rap. Et donc, il commençait à rencontrer des scénaristes, donc voilà, par leur intermédiaire. Donc, cet auteur qui s'appelle Charles Van Tiegem, qui travaillait déjà avec Mandarin, m'a recruté à l'époque avec Mandarin pour commencer à réfléchir avec Franck à son projet. Et voilà, on a commencé à écrire à 4 avec donc Franck Gastambide, Giulio Calegari, Charles Van Tiegem et moi-même. À l'époque, Franck était en tournage de Taxi 5, en écriture puis tournage, donc c'était très sportif. Et puis ensuite, on a accéléré la cadence, on a commencé à écrire, on a recruté un autre auteur qui s'appelle Nicolas Lacarrière, qui était aussi à la FEMIS. Et on a fonctionné un atelier d'écriture de manière assez classique, quoi. On avait au début on tapait les pitchs ensemble, puis on partait en synopsis, en séquencier, en traitement, et puis on dialoguait, quoi.
Et comment vous avez fait pour l'écriture? Est-ce que chacun ramenait son univers? Est-ce que toi c'était un univers pour les gens, hein, qui viennent justement pour cette série politique qui est Parlement, Validée, et donc si vous faites partie des peu de personnes qui ne l'ont pas vue, est une série donc de Canal+ qui aborde les dessous du rap français, un peu justement comme 10% peut aborder les dessous des agences artistiques, bien que ce soit pas du tout le même ton. Mais est-ce que toi, du coup, t'étais auparavant, tu t'y connaissais justement dans ces coulisses-là, ou est-ce que toi, ce que t'as apporté, c'est vraiment plus de la rythmique, de l'écriture, de la comédie?
Non, non, moi, c'était un sujet qui me parlait depuis très longtemps.
D'accord.
Je suis très fan de rap depuis longtemps, et l'idée d'écrire sur le rap était germée depuis longtemps. J'avais déjà écrit plusieurs trucs, j'avais déjà commencé à écrire plusieurs projets là-dessus, qui étaient tous très différents, mais il y avait toujours cette envie de développer des fictions et des récits dans cette arène-là. Et pareil, et je pense que pour mes camarades, c'était un peu la même chose. Et Franck, lui, pour le coup, il est dans cet univers depuis très très longtemps. Il travaillait avec DJ Core, qui faisait la musique de la plupart de ses films, dont de Pattaya et Taxi 5. Et il avait déjà 1000 anecdotes que nous, on n'avait pas forcément, parce qu'il vivait vraiment dans ce truc-là. Il évolue avec les rappeurs, il est pote avec ces gens-là avec qui il travaille. Et donc, il avait quelque chose de très organique, quoi, en lui, lié au rap. Et il nous a beaucoup nourri d'anecdotes durant toute l'écriture. Et puis, on a eu la chance d'avoir des gens qui nous accompagnaient aussi, des consultants, entre guillemets, dont Moussa Mansali, qui joue le rôle de Mastar, qui était génial parce qu'il nous a apporté plein d'anecdotes, plein de choses. On lui faisait lire des trucs, on lui pitchait. On a aussi Fred de Skyrock, qui est l'animateur de Planet Rap, qui était génial. Il nous a vachement aidé. Il lui aussi avait des centaines d'anecdotes et des points de vue super intéressants. Donc à la fois Franck, par son expérience personnelle, et ses consultants et nos expériences à nous de fans de rap, ça formait un truc un peu explosif, et il y avait beaucoup beaucoup d'idées, quoi.
Oui, parce que ce qu'il faut rajouter aussi, puisque effectivement là en ce moment c'est la période de confinement, donc il y a plus de 15 millions de vues, donc tout le monde parle du phénomène pour ça, pour ce nombre de spectateurs, mais il faut aussi dire que c'est un phénomène puisque la presse est unanime déjà, et surtout ça arrive à rassembler un grand public, ou alors une personne qui n'est pas du tout la cible de Planète Rap, justement, avec quelqu'un dont c'est complètement le dada. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire que cette série arrive à rassembler autant de gens, autant des gens qui sont très spécialistes de rap, et elle est très référencée, donc ils comprennent les clins d'œil et tout, autant des gens qui ne se sont jamais intéressés à cet univers. Ça, en l'écrivant, vous aviez ça en tête, ou ça a été fluide?
Alors, et complètement. En fait, ça, c'était vraiment, et surtout, la hantise pour Franck, encore plus que pour nous, lui, parce qu'il est vraiment dedans, c'était que le milieu du rap valide cette série. C'était vraiment un des enjeux les plus... Et je pense que c'était ce qu'il y avait de plus difficile, d'ailleurs, d'être à la fois d'être réaliste, vraisemblable, et en même temps de faire attention, de jouer avec les clichés, avec les idées reçues, mais de les assumer parfois, parce que c'est parfois ce qu'on nous a reproché, c'est d'être parfois cliché, mais en réalité... C'est pour ça que le milieu aussi nous a validé, c'est que tout ce qu'on raconte est réel, quoi. Et on s'est basé sur uniquement des choses qui se sont passées. Alors tout est vraisemblable. Et ensuite, l'idée d'être populaire et de plaire au plus grand nombre, on l'avait en tête. On essayait d'être le plus clair pour les gens qui ne voyaient pas ce que c'était que le rap, et d'essayer de les amener à suivre ce récit de ce jeune mec qui débarque là-dedans, d'essayer de leur faire comprendre que voilà comment ça pourrait se passer et comment ça se passe encore aujourd'hui. Et ensuite, pour la presse, j'avoue que c'était quelque chose qu'on avait moins en tête, mais c'est génial qu'effectivement, ça puisse cocher ces trois catégories, quoi.
Et quand vous avez écrit ces arcs narratifs différents pour chacun des personnages, qui un petit peu comme dans Parlement d'ailleurs, ont tous leur univers et sont tous très bien écrits. Il n'y a pas un personnage qui est mis de côté dans Validé, ils sont tous écrits avec le même amour, si je puis dire ça en termes un peu démagos. Mais est-ce que vous avez pensé justement à une suite pour ces personnages? Parce qu'on imagine évidemment que Canal+ va vous faire confiance pour d'autres saisons, plusieurs. Est-ce que vous avez déjà l'arc en tête, ou est-ce que vous avez écrit cette saison 1 vierge de toute idée pour la suite?
Alors non, il y avait déjà des idées qui germaient pour la saison 2. En fait, c'est tellement riche, arène et ces personnages, que de manière assez facile et naturelle, tu peux entrevoir des trajectoires en saison 2, 3, 4, 5. Donc il y avait déjà des choses. Et voilà, de toute façon, je spoil pas, mais c'est déjà annoncé, la saison 2 est en écriture. Moi, je n'écris pas la saison 2. Je suis parti en tournage de Parlement au moment où on a commencé l'écriture. Donc malheureusement, je ne pouvais pas être dessus. Mais je sais qu'ils ont bien avancé, et c'est vraiment... c'est très excitant.
Et toi, tu as pu participer, puisque justement dans ce tournage, hein, ce que m'a raconté Franck, c'est que ce qui était formidable, c'était de recréer des vraies arènes. Hein. Vous avez tourné à l'Accor Hotel Arena, me semble-t-il. Je ne pense pas dire de bêtises, si ça, je pense qu'il y a des décors qui ont été tournés là-bas et tout. Est-ce que toi, tu as pu assister à ces tournages, à ces recréations de concerts, ou est-ce que toi, tu es juste resté dans la phase d'écriture?
Non, moi, j'ai un tout petit rôle, joue un tout petit rôle dans l'épisode 2, donc j'ai la chance d'avoir été là pour les scènes sur le périph, quand le périph était bloqué. Et j'avoue que c'était assez incroyable de tourner sur un périphérique bloqué, c'était fou, surtout avec une bagnole qui allait à 300 km/h, c'était complètement insensé. On a tourné l'été dernier, ça, et j'étais assez...
Génial, vous avez fait ça comment, la nuit, du coup le...
Ouais, la nuit, c'était en été, donc on a commencé à tourner à 22h30, on s'est mis en place avant, et on avait jusqu'à, je crois, 6h du mat pour rentrer toutes les séquences. Et ça s'est fait, ouais, sur une nuit, c'était assez incroyable. Je salue à la fois le travail de Franck Gastambide en réel, et aussi de David Diane, qui a réalisé d'autres épisodes. Et franchement, ouais, ils ont assuré sur ça. J'étais pas là quand ils ont tourné, donc c'était au Zénith, pendant un vrai concert. J'étais pas là, mais c'est pareil, c'était des expériences assez...
Oui, c'était le Zénith, hein, c'était pas l'Accor Hotel,
ouais,
autant pour
moi. Non, c'était le Zénith, ouais. Effectivement. Mmh. Et puis Franck, lui, il a tourné aussi au Vélodrome avec Soprano, ils ont tourné dans des lieux réels. Ça, c'est aussi la force de Franck qui est proche de ce milieu et des gens de ce milieu, et qui sait activer les trucs qu'il faut au moment où il le faut, quoi. Il réussit à convaincre parce que c'était pas évident non plus de convaincre tout le monde de faire cette série déjà de base. Il y a quand même un truc très difficile à imposer et à expliquer à tout le monde, quoi, à tous les échelons, quoi. Et ensuite, une fois que tu lances le tournage, à convaincre les rappeurs, quoi. Il y a un truc de... Ce qui était assez fou, c'est les réunions qu'on faisait avec justement les vrais rappeurs pour leur pitcher la série, pour leur proposer de jouer dedans. Et il y a eu des réunions qui étaient assez lunaires, quoi. Moi, en tant que scénariste classique, j'avais jamais fait ça, quoi. Et là aussi, Franck a réussi à convaincre les gens de le faire, quoi.
Et quand tu as vu le montage, c'est ce à quoi tu t'attendais quand tu as vu le montage final mixé, étalonné, mis en musique, etc.? Ou c'était encore un autre rythme, parce que le rythme est effréné dans Validé.
Ouais, le rythme est... Non, alors vraiment, à l'écriture, ça, c'était l'un des premiers trucs que Franck nous a dit, c'est: je veux que ce soit des événements extrêmement forts. Il y avait déjà cette volonté que ce soit très, très fort. Vraiment, qu'on n'y ait pas de répit, quoi. On y va, et on une fois qu'on commence, on fonce. Et ensuite, ouais, c'était super excitant parce qu'on travaillait avec que des gens du milieu du rap, donc à la fois des DJ, ou pour Moussa Mansali, qui lui écrit aussi des textes. Dès le début, il y a eu des propositions très organiques, très concrètes. On recevait des propositions de musique, de paroles. Il y avait vraiment quelque chose de... Très tôt, ça a pris vie, et c'était très proche de ce qu'on imaginait.
Et dans le fantasme qu'on se fait quand on regarde une série comme ça, on imagine, quand on écrit un peu, moi j'imagine, est-ce qu'en tant qu'auteur, vous avez écrit certaines scènes avec du gros son derrière, ou comment ça s'est passé, ou est-ce que ça a été plutôt les scènes les plus rythmées, ont été écrites dans un silence total? C'est marrant parfois, justement, la comparaison.
Ah bah très, ouais, c'est une bonne question. C'est assez, écoute, c'était pareil, c'était assez organique. On écrivait, on était en atelier, donc à la prod Mandarin, et on pitchait pas mal de trucs, on discutait, voilà, c'est un peu bizarre pour quelqu'un qui connaît pas, mais concrètement, t'es autour d'une table, tu bouffes des chocolats, et tu parles, tu racontes des histoires, des idées, tu proposes des trucs, et puis il y a un moment où tu sens que ta vie, il faut écrire, donc tu repars en fin d'après-midi avec des points, t'as noté plein de trucs, ce qu'on appelle des beats, ou des un fil à fil, et donc c'est, en gros, c'est l'enjeu de la séquence ou l'idée de la séquence. Tu pars, tu commences à rédiger, tu rentres un peu dans le détail, donc tu t'écris ce qu'on appelle un traitement, soit un séquencier, et tu reviens le lendemain, et on lit le texte, on se dit oui, ça, machin, on affine. Et il y a des moments effectivement, non pas de silence. Moi, j'écris toujours avec du rap. J'ai toujours écrit avec de la musique quand j'écrivais. Et là, en l'occurrence, c'était constamment avec du rap. Effectivement, beaucoup de rap français. J'étais plutôt rap américain à la base. Mais là, tu te plonges. Et surtout, tu écoutes le rap d'aujourd'hui, quoi. Donc, faut écouter ce qui se fait maintenant et pas forcément ce que t'aimes.
Sur quel artiste écrivais, pour donner des petits exemples, d'ailleurs, si tu te souviens de la phase d'écriture?
Alors, il y avait un rappeur français, en fait, qui a émergé au moment où on était en train d'écrire cette série, okay, qui s'appelait Moa La Squale.
Oui, d'accord.
Qui, moi, m'a pas mal inspiré dans le personnage. En tout cas, il y avait quelque chose dans sa, dans sa violence, dans sa manière de rapper très brute, qui me faisait naître pas mal de trucs. J'écoutais pas mal Vald à l'époque, qui est un autre jeune rappeur aussi, qui est lui pour le coup plutôt ironique, assez drôle, qui a des points de vue souvent décalés. J'aimais beaucoup PLK, c'est un rappeur pareil qui a émergé, enfin il était là plus, un peu plus longtemps, mais il a commencé à cartonner il y a 2 ans, donc on y avait pas mal de PLK, de Fianso, de beaucoup de rap français comme ça, quoi. Je sais pas trop si ça parle, mais
ça va forcément parler à ceux qui viennent t'écouter pour valider, ça c'est sûr en tout cas.
Oui.
Je voudrais passer l'extrait de 2 séries, puisque du coup, ce qui est génial quand on est multicasquette, c'est que tu peux parler autant d'acting que de writing, comme si on peut dire. Il y a une série dont tu m'as parlé en préparant l'émission, qui s'appelle The Office. Alors pour tous les gens qui viennent ici et qui voudraient justement peut-être plus tard être scénariste ou intégrer une école de cinéma, je pense que le script parfait pour une série rythmée justement, c'est The Office. On en écoute un petit extra après, puis tu nous parles de cette série.
Alors voilà ce qu'on va faire, on va mettre les choses au clair. Je vais vous manager au niveau de l'attitude, du comportement, ce sera davantage une espèce de micro-forme de management. Comment t'appellerais ça, Jim ?
Du micro-management ?
Boum ! Ouais ! Donc Jim va jouer le rôle du client. Dwight, il va falloir que tu essaies de vendre tes produits à Jim sans être agressif, glacial et sans t'énerver.
À vous. D'accord. Alors, on y va. Bring, bring.
Allô ?
Allô, ici Dwight Schrute de chez Dunder Mifflin, fournisseur de papier.
Oh, j'ai besoin de papier, ça tombe bien.
Oui, et vous avez de la chance parce que cette semaine, nous faisons des prix sur toutes les références de notre catalogue.
C'est mon genre de chance.
Demande-lui son nom. Vous êtes monsieur ?
Je suis Bill Leschke.
Ah oui, c'est votre nom, vraiment ?
Ça alors, quel culot ! Sans ma famille, ce pays n'aurait sans doute jamais existé. Sois respectueux, Dwight, s'il te plaît.
Oui, bien sûr.
Excusez-moi, on m'appelle sur notre ligne.
Pardon ? Ah oui, je patiente.
Allô ?
Oui. Je patiente.
Non, j'étais au téléphone avec un vendeur stupide, un gros nief. Je vais le laisser me baratiner et perdre son temps, mais rien à lui acheter. Et ouais, à plus. À toi de lui faire changer ta vie. Désolé, c'était une urgence familiale.
Oh, rien de grave.
Ça vous regarde pas, c'est personnel. Ne jamais franchir cette limite, Dwight.
Je m'excuse, monsieur Leschke, je disais donc que nous faisions cette semaine...
Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort, j'entends plus très bien. Il est âgé, il n'entend pas.
Oh, d'accord, alors je vous disais que nous faisions actuellement...
Qu'est-ce que vous dites?
Bon, nos prix n'ont jamais été aussi bas.
Plus fort, j'entends rien.
N'ont jamais été aussi bas.
Je n'entends rien.
Monsieur Leschke, nos prix cette semaine n'ont jamais été aussi bas.
Mais t'es en train de faire une énorme bourde. Où est-ce que tu as vu qu'on criait sur les clients?
Alors écoute-moi bien,
jeune homme.
Continue.
S'il fallait vous décrire, je le ferais en 3 mots.
Et voilà.
Agressif, ouais. Glacial et s'énervant trop vite.
S'il vous plaît, monsieur Leschke,
très en colère.
Donnez-moi une seconde chance. Monsieur Leschke,
passe-le-moi.
Je vais vous passer mon patron.
C'est une très bonne idée. Qui est-ce?
Allô, oui, ici Michael Scott, le directeur régional.
Bonjour, ici William M. Leschke.
Enchanté, monsieur Leschke. Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Michael, j'aime beaucoup votre voix. Alors, je vais vous dire, je vais vous acheter pour $1 million de papier.
J'en suis ravi, merci, et je suis sûr que vous serez satisfait.
Vous êtes le maître.
Mais à une condition, Michael.
Oui.
Je veux que vous viriez le vendeur qui m'a manqué de respect.
Non, ne faites pas ça. Il y a $1 million en jeu.
Voilà, The Office. Alors, pourquoi ce choix? Je pense que c'est par rapport à l'écriture.
Ouais, bah, l'écriture, elle est pour le coup exceptionnelle. C'est à la fois très classique. Donc c'est en ça que moi j'adore The Office, c'est que en tant que scénariste, c'est une des premières séries que j'ai décortiquées. C'est-à-dire que tu prends les épisodes et tu les réécris, tu en fais le séquencier, quoi, la structure, et c'est incroyablement classique, quoi. T'as 3 intrigues, la A, la B, la C, tout se croise, tout s'accélère, les personnages sont extrêmement clairs, ils sont limpides, ils ont leur ligne, leur trajectoire. Pour moi, c'est de loin la meilleure série du monde en termes d'écriture, et évidemment, là je parle de The Office US, qui est celle qui me plaît beaucoup plus. Moi, je suis plus sensible à The US parce que Steve Carell, tout simplement, quoi. Ils ont trouvé un génie de la comédie, et quant à ça, c'est du pain béni, quoi.
Complètement d'accord. Passion Steve Carell. Quand tu dis que tu t'amusais à réécrire les, c'est-à-dire que c'est une série qui t'a plu avant de faire le métier de scénariste, ou c'est une série que tu as redécouvert à l'école ou en cours en te disant, mon Dieu, c'est la chose parfaite pour m'entraîner de refaire ça. Comment ça s'est fait?
C'est les deux. En fait, c'est une série que j'aimais quand j'étais plus jeune.
D'accord.
Je me souviens plus quand elle a commencé, mais c'était il y a quasiment 15 ans, quoi. Ça devait être 2008, un truc comme ça, 2007. J'étais très vite très fan de cette série, mais je la voyais que comme une série de divertissement qui me faisait rire et qui me touchait, mais il y avait rien d'autre, quoi. Et quand j'ai commencé à écrire, je sais pas, ça devait être en 2012-2013, et surtout quand j'étais à la Fémis en 2015, il y a eu une une révélation une évidence d'écriture, et c'était genre limpide, quoi. C'est-à-dire que quand tu la décortiques, tu apprends l'écriture en décortiquant cette série. Et c'est pareil, c'est des séries qui sont classiques comme Friends, qui est vraiment pareil, du génie. C'est exactement pareil en termes d'écriture, et Seinfeld avant ça, ou Curb Your Enthusiasm, qui ont posé les bases de ce qu'était un sitcom, quoi. Il y a une limpidité et une efficacité qui est géniale quand tu commences à écrire, je trouve.
Et justement, on va parler de Friends un petit peu. Un petit extrait culte hein, de Friends, une petite scène de Friends là, de quelques secondes, parce que je voudrais reparler de cette intemporalité dans l'écriture juste après.
Écoutez, j'ai étudié le karaté depuis très très longtemps maintenant. Et il existe un concept avec lequel vous devriez vous familiariser. C'est le concept que les Japonais appellent unagi.
Ce serait pas une sorte de sushi ?
Non, c'est un concept.
Oui, c'est ça. C'est une anguille d'eau douce.
Oui, peut-être que c'est aussi la traduction.
Je crois que je pourrais le tuer pour un cornet de peau de saumon, là.
Oh, ça va, faites-vous attaquer, je m'en balance.
Ah, faut pas, Ross, on est désolé. Bon, s'il te plaît, dis-nous de quoi il s'agit.
Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses. Seulement, il n'y a qu'au moment où on atteint le véritable Unagi qu'on peut être prêt à affronter tout danger qui pourrait vous tomber dessus.
Tu veux dire au cas où un mec essaierait de nous voler notre petit pic ou carrément notre assiette de poisson?
Voilà Friends, hein, Friends, une série qui termine en 2003 et qui devient culte année après année, grâce à Netflix d'ailleurs, puisqu'une toute nouvelle génération l'a découverte, une nouvelle génération qui, quand ils ont commencé à voir Friends, était un peu surpris de l'écriture qu'ils jugeaient parfois homophobe, parfois grossophobe, alors que pas du tout, mais c'est vrai que ça pouvait démontrer que on écrivait différemment il y a 20 ans, mais pourtant la série est toujours aussi culte. Comment est-ce que t'expliques que Friends, alors qu'il y a encore des gros combinés de téléphone, qu'il y a encore des scènes avec des répondeurs, avec des cassettes, comment est-ce que t'expliques que ça cartonne autant auprès des 13-14 ans maintenant comme nous à l'époque?
Bah, l'écriture et l'incarnation, quoi. Ça, c'est les deux points qui, sans ça, tu fais pas une bonne série, quoi. C'est à la fois extrêmement bien écrit, très classique, très net. Il lance des intrigues dans chaque épisode. Puis c'est du bouclé pour Friends, donc c'est comme pour The Office, mais même si ça feuilletonne un peu, quand on dit bouclé, ça veut dire que t'as des intrigues qui ne tiennent qu'un épisode. Donc c'est des bonbons, quoi. Tu peux regarder n'importe quel épisode, tu sais que tu vas kiffer, que tu auras une réponse à la fin, une question au début, une réponse à la fin. Et en même temps, t'as ce plaisir du feuilletonnant dans les relations intimes, évidemment Ross, Rachel, Monica, Chandler, etc. T'as vraiment ça coche toutes les cases pour que ce soit une série qui plaise tout le temps et qui soit toujours agréable à regarder, quoi. Il y a cette facilité et cette fascination que t'as pour les personnages qui existent tellement, quoi. Il y a vraiment cette d'ailleurs, quand on parle des acteurs, on connaît le nom de David Schwimmer est beaucoup moins connu que le nom de Ross, quoi.
Oui, tout à fait.
Cette familiarité, cette proximité que tu as avec ces personnages-là que tu as vu pendant 10 saisons, quoi. C'est aussi ça la force de cette saison. C'est pour ça que The Office, ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui est plus proche de l'ordinaire, qui est plus grisâtre. C'est du bureau, donc on n'est pas à New York, on n'est pas dans un truc qui est romantique, entre guillemets. Là, c'est la beauté de l'ordinaire, quoi. Ça part pas sur un coup de tonnerre, The Office. Il y a quelque chose de plus discret. Et c'est aussi la force de ces séries-là, c'est que elles ont besoin d'exister sur la longueur pour pouvoir à la fois nous toucher et nous faire rire.
Et c'est le cas de Parlement un petit peu d'ailleurs aussi. C'est le cas de Parlement où on a envie encore d'être attaché à l'histoire de ces personnages. Et quand tu regardes des épisodes comme ça, des unitaires de Friends ou de The Office, est-ce que tu arrives à re-regarder ça d'un point de vue d'adolescent, ou est-ce que, c'est-à-dire pour le pur divertissement, ou est-ce que tu, maintenant en tant qu'auteur, tu ne peux pas t'empêcher tout de même de regarder le travail d'écriture à chaque fois que tu regardes ces séries-là?
Non, parce que c'est tellement bien écrit que je vois l'écriture, je vois vraiment que c'est qu'un plaisir de gosse, quoi. Là, je me suis remis dans The Office, je suis saison 8, j'approche de la fin, et c'est que du kiff, quoi. T'es avec les personnages, tu les connais, Dwight, Jim, enfin, tu les as dans ta vie, et tu peux pas voir l'écriture tellement il y a une incarnation extraordinaire. Enfin, je peux plus la voir, moi, l'écriture, je suis que dans du kiff.
Et dans ta vie de confiné, là, est-ce qu'il y a des séries justement que tu découvres que tu n'aurais pas découvert avant? Est-ce que tu te fais du binge-watch de choses que tu as déjà regardées? Quelle est ta vie de sériephile confiné, du coup?
Je regarde surtout beaucoup de films depuis le confinement. D'accord. Parce que j'ai bouffé beaucoup de séries pendant des années, et là je suis reparti sur une cinéphilie plutôt film, quoi. Même si je suis en train de me refaire Les Sopranos, quand même sur le. J'avoue.
Soprano 2000-2005, une série 90-2004 d'ailleurs, une série incroyable d'HBO. Quel film? Ouais. Juste pour savoir quel genre de film, parce que ça nous intéresse beaucoup aussi.
Alors, je suis dans Hitchcock à fond. Je suis en train de lire le bouquin d'entretien Truffaut-Hitchcock.
Donc avec Truffaut-Hitchcock.
Ouais, et c'est hallucinant. C'est vraiment, mais c'est le meilleur bouquin possible si tu veux apprendre ou pas.
Du coup, t'as eu envie de regarder Sueur froide après et tout ça, parce que c'est tellement décortiqué dedans.
Ouais. Complètement. Je suis en plein dedans là. Et puis des films, des comédies françaises que j'ai pas vues des dernières années. Là, j'ai envie de regarder, par exemple, Merde, le Donzelli, Notre-Dame. Il faut que je regarde ça ce soir.
Ah, très bien. Valérie Donzelli, tout à fait. Ouais. Eh ben, super. Écoute, merci d'avoir partagé cette petite conversation. Malheureusement, on n'est pas en studio. Hein. Évidemment, je préfère quand c'est en studio, il y a beaucoup plus. Mais on a quand même, je trouve, réussi à avoir une belle discussion. Je rappelle évidemment aux gens qu'il faut regarder Parlement, hein, que vous soyez fan de séries comme VIP, que vous soyez fan de séries comme The Office, de séries comme 10%. Ces séries, elle est faite pour vous. C'est une série évidemment sur la politique internationale, la politique européenne, mais c'est une trame de fond et ce n'est pas que ça, c'est aussi sur les rapports humains, sur cette génération justement un petit peu perdue qu'on voit en ce moment et qui est très très bien représentée avec humour dans cette série Parlement, donc sur France Télévisions. Petites pépites qui vont sortir en même temps le 9 avril, hein, c'est bien ça, je me trompe pas?
C'est ça,
c'est en ligne le 9 avril.
C'est jeudi 9 avril.
Et évidemment, le phénomène validé, même si peu de gens ne l'ont pas encore vu, mais regardez là encore, je m'adresse peut-être plutôt aux gens qui pensent que ça ne va parler que de culture urbaine, que c'est pas fait pour eux. Je peux vous assurer que moi, par exemple, je suis pas forcément féru de culture urbaine et cette série m'a happé dès le prologue. Donc foncez également voir le travail d'écriture, hein, pour le coup là, de Xavier, sur Validé, Canal+. Bah, merci à toi.
Ben, merci,
en espérant te revoir bientôt en plateau pour parler de la saison 2 de Parlement. Voilà.
J'espère, ouais. Merci beaucoup pour l'accueil, c'était super cool.
Eh ben, rendez-vous est pris. Et puis, vous réagissez évidemment à la série Parlement, la série validée avec le hashtag validé Parlement sur les réseaux sociaux. @betaserie, le hashtag c'est entourage si vous voulez commenter l'émission. Est-ce qu'on peut te retrouver sur des réseaux sociaux, toi, Xavier? Est-ce que les gens
tout
peuvent.
Tout à fait. J'ai
alors,
Instagram.
Dis-nous tout. Ah, alors c'est quoi ton Instagram?
Xavier Lacaille, tout simplement.
Tout attaché?
C'est attaché. Et je crois que c'est Xavier d'ailleurs, GZA. Mais bon, si tu veux
voilà, c'est ce Lacaille, que je voulais dire. C'est pour ça que je voulais dire ça, c'est GZA. Xavier Lacaille. Eh ben, écoute, on te retrouve sur les réseaux, mais on te retrouve surtout en tant qu'auteur et en tant que comédien. Et merci d'avoir fait cet entourage confiné avec nous.
Merci beaucoup.
Entourage, présenté par Kevin Elarbi. Une bulle d'intimité sur Beta Série, la radio.